L'espion sans le savoir, par Émile Zavy. Jamais je n'avais aussi mal déjeuné, même en pleine campagne, sur les lignes de combat, où toutes les erreurs et imprévoyances peuvent trouver une excuse. Il est vrai que cela se passait le 20 août, au début de la guerre, celle de 1914, dans un village des Alpes. Les traditions culinaires les plus sûres étaient bousculées. D'abord, un service déplorable. Ni l'une ni l'autre des deux serveuses de ce modeste restaurant, juché sur une hauteur d'où l'on découvrait la vallée du Grésivaudan, ne s'inquiétaient de ma présence. Elles avaient l'air d'attendre quelqu'un, le vrai client, celui qui vaut la peine que l'on se dérange. Quant au sommelier qui traînassait ses souliers fatigués, il inspectait les tables et ne semblait rien voir. On aurait juré qu'il avait depuis longtemps résolu par l'indifférence la question du pourboire. Je l'observais. Son attention était attirée par un gros monsieur aux aguets derrière une petite table. Les deux serveuses aussi ne s'intéressaient qu'à cet homme qui ne présentait pourtant rien de remarquable. C'était un personnage assez lourd, d'une soixantaine d'années. Il avait un visage épais et des gros yeux qu'il dissimulait maladroitement sous de fortes lunettes. Je reconnus en lui cet automobiliste obligeant à qui, tout à l'heure, j'avais demandé l'adresse d'une auberge paisible. Il m'avait indiqué la pension de famille où il s'abritait. Il avait tenu à s'excuser. « Je ne vous invite pas à ma table, j'attends ma fille. » Sur ce point, nous étions d'accord. J'avais mes raisons pour tenir à la solitude. « Vous êtes en permission ? » m'avait-il demandé. « Non, en convalescence. Vous avez été blessé ? » ?»« Assez durement, merci. » »« Et vous vous reposez dans ce village ? » ?»« Ah, triste, triste guerre. » Il avait secoué la tête plusieurs fois. Cette compassion m'avait fait plaisir, bien que l'homme s'exprimât d'une voix gutturale. Je ne pouvais pas, quand même, lui expliquer que j'étais venu dans ce pays de montagne en quête d'un amour autrefois ébauché. Mes explorations avaient été inutiles. Cette histoire, d'ailleurs, n'a rien de commun avec ce récit et je n'y insisterai pas davantage. Maintenant, je devais agir vite pour regagner Grenoble avant la nuit, sans attirer l'attention, car les gendarmes se montraient d'une curiosité excessive à l'égard des soldats en permission. Personne ne me remarquait. Un caporal qui boite légèrement, c'était bien son droit. Je m'étais installé près de la porte, sous la véranda du réfectoire. Il faisait aussi chaud que sous les arbres et sur les vitres brillaient les rayons du soleil. « Nous n'avons plus grand-chose, » m'annonça enfin une serveuse. « Une omelette sera la bienvenue. » Ces mots tombèrent dans un air de suspicion et de silence. Les gens ne parlaient qu'à voix basse. À ce moment, un homme à la démarche vive se dirigea vers le restaurant. Le gravier de l'allée crissait sous ses pas. Il s'arrêta devant la porte et inspecta les convives. À certains signes, on identifiait un officier en civil. Le chapeau de feutre trop rabattu sur le front, le pantalon trop large et le veston coupé, aurait-on dit, sur un modèle militaire cintré. Il fit un signe rapide de la main à l'adresse des vieux messieurs, comme s'il répondait au salut de troupiers de premier choix, puis il alla s'asseoir non loin de moi à une table réservée. Aussitôt, le sommelier trottina et les deux serveuses accoururent. Le nouveau venu paraissait âgé de 40 ans au plus. Son visage était fermé, ses yeux prompts, le regard droit avec une lueur féline et cruelle. Une moustache courte, à la façon des officiers anglais de ce temps, cachait mal des lèvres serrées. L'automobiliste, seul derrière sa table, semblait indifférent. Pas une fois il n'avait levé la tête vers cet homme qui me dévisageait. Je l'examinais aussi. « Tout à l'heure, me dis-je, il ne pourra plus y résister. Il me demandera mon titre de permission. » Ne prolongeons pas notre séjour ici. Du reste, inutile d'insister maintenant. Mon déjeuner ne sera jamais réussi. Une omelette froide, un saucisson chaud qui avait été réchauffé plusieurs fois, des frites trop grillées, c'était suffisant comme expérience. Je me levais. Je ne tenais guère à passer près de celui que j'appelais en moi-même l'officier en civil. Cependant, je voulais prendre congé de l'automobiliste. Je fis un détour parmi les chaises et j'allai aborder ce voyageur lorsqu'il tourna la tête, marquant ainsi sa volonté de ne pas me voir. J'en fus surpris et vexé. Cet homme, qui paraissait suspect à tous les autres convives, refusait de me reconnaître. Que redoutait-il avec son air traqué? Je ne sais quelle bizarre idée me traversa l'esprit, mais, sans paraître le regarder, je murmurai à son adresse « Dubis verloren ». J'eus le temps, avant de sortir, de constater les premiers effets de ma plaisanterie. L'homme avait pâli. Il se préparait à boire. Il s'était arrêté, avait reposé son verre. Il ne bougeait plus. Je ne m'attardai pas. Je vis une porte, je la poussai, et me trouvai dans une cour où des buis indiquaient les water closets, cependant que des fleurs au loin dénonçaient un jardin. Je m'orientai lorsque je fus rejoint par l'officier en civil. Je n'en fus pas surpris, je dirais mieux, je l'attendais, lui et les embêtements qu'il apportait. Il se dressa devant moi. « Dites donc, caporal, qu'avez-vous raconté à cet homme ?»«
Rien du tout. »
Il avait une voix coupante et saccadée. « Pas de faux fuyant. » Vous vous êtes dirigé ostensiblement vers sa table. Il n'a pas eu l'air de vous apercevoir. Vous lui avez jeté trois mots en passant sans vous arrêter. C'est bien joué. Mais je vous ai vu. Quels étaient ces trois mots? J'hésitais. Pourquoi en vérité avais-je parlé à cet automobiliste? L'officier au chapeau de feutre ne restait pas en place. Votre nom, votre matricule, vous êtes en permission? Allons, voilà qui compliquait tout. Moi aussi, j'étais fait. Je ne pouvais pas lui expliquer que ma permission ne s'étendait pas à ce sacré pays. Je pris la position réglementaire du garde à vous et je répondis audacieusement, « Mon capitaine !» Encore une bonne idée que j'avais eue là. Il trépignait. « Il n'y a pas de capitaine ici. Et ne vous mettez pas au garde à vous. » C'était bien la première fois qu'un officier civil me défendait cette position rigide. Je bégayais pour mieux simuler l'ahurie. « Bien, mon capitaine !» Il haussa les épaules. Soudain calmé, il reprit. « Vous êtes un malin, vous. Voyons, que lui avez-vous annoncé pour qu'il prenne peur si brusquement ?»«
Je lui ai dit simplement en allemand, vous êtes perdu. » »«
C'est tout. » Le capitaine en civil reçut cet aveu. Il paraissait stupéfait. Puis il dut penser que je mentais et je crus qu'il allait se jeter sur moi. Déjà, il fermait les poings. Heureusement, une des serveuses essoufflée et tout émue accourut.
« Je vais vous chercher partout, monsieur. Vous savez l'homme. » Il a grimpé dans sa chambre à toute vitesse. J'aurais jamais cru qu'il pouvait trotter comme ça. Il nous avait dit « C'est un malaise. Je me trouve faible. Je vais me coucher. » Mais il ne savait pas que je le surveillais. Quand il a cru qu'on ne le voyait plus, il a couru.
« J'y vais, » répondit le capitaine, qui avait reconquis son sang-froid. Puis, s'adressant à moi, « Vous, caporal, suivez-moi. » J'obéis sans mauvaise grâce. En cours de route, je découvrirai peut-être une explication qui me sauverait. La petite serveuse nous précédait. J'entendais les ordres que l'officier en civil lui donnait. « Vous allez frapper doucement la porte de sa chambre, puis nous entrerons. » Cet hôtel-restaurant était construit en bois comme un chalet alpin. Le couloir du premier étage sentait la résine chauffée. Nous avancions lentement, sans bruit. La petite bonne cogna trois fois. Pas de réponse. Le capitaine poussa la porte. La pièce était vide. Aucun désordre. « Parti !» s'écria-t-il. Il a signé ses aveux puisqu'il a fui. Et se tournant vers la serveuse, où peut-il se cacher? Il a dû sauter par la fenêtre dans la cour où sa voiture l'attendait.
Il va falloir le repincer.
Il m'aperçut à ce moment-là. Sa colère tomba sur moi. Votre nom, votre adresse, vite, pas de blague. Je dus énumérer. Caporal Lavernet, Julien, de l'infanterie, en convalescence à Grenoble, place de Gordes. Comment êtes-vous arrivé dans ce restaurant? L'homme que vous cherchez m'y a conduit. Vous le connaissez?
Non, je lui avais dit que je voudrais trouver une bonne auberge. Il m'a indiqué celle-là, c'est tout.
L'officier en civil me regardait obstinément. Quelle profession?
Avocat,
répondis-je à tout hasard.
Bien.
Si j'ai besoin de vous, je saurai où vous repêcher.
Je répliquai avec autorité.
Et vous, monsieur, où pourrais-je vous découvrir?
Il ricana avant de répondre. On me trouve toujours quand on ne m'attend pas.
Je m'en aperçois, cependant. Téléphonez à la pharmacie Oscar, près de l'hôtel des postes. Donnez votre nom et demandez qu'on me fasse prévenir. Ne racontez rien sans avoir reconnu ma voix. Il vaut mieux que vous rentriez à Grenoble maintenant. Vous pouvez disposer. Je ne me fis pas répéter cet ordre. Vous pouvez disposer. Tout à fait le langage d'un officier.
Que faisait-il dans ce petit restaurant?
Parbleu, il surveillait l'autre, celui qui avait fui si vite. Mais je me secouais. D'abord, m'en aller. J'avais le choix entre un sentier rapide, un raccourci et la route plus longue. Ces deux voies aboutissaient à la grande place où parfois un tram stationnait. Je boitais encore un peu. Je me décidai pour la route. En descendant, une légère brise se mit à souffler. Je m'écartai sous les arbres pour allumer une cigarette et c'est ainsi qu'à l'abri, j'aperçus sur une autre route une automobile qui devait être en panne. Le conducteur semblait agité. Il se penchait sur sa boîte à outils. J'avançais et je le vis mieux.
Sa boîte à outils était une valise et le conducteur était mon fuyard du restaurant qui, fiévreusement, se cachait là. Je marchai vers lui. Il parut mécontent. Il avait retiré ses lunettes et ses yeux gris n'exprimaient aucune bienveillance. « Qu'y a-t-il ? Accident ?» Il secoua la tête. Je regardais la voiture. Une sorte de torpedo, comme on appelait alors ces autodécouvertes. Je me glissai sur le siège et je saisis le volant. Je touchai, comme un profane, à droite, puis à gauche. La voiture sauta sur place en toussant avec bruit. « Qu'est-ce que vous faites ? » cria l'homme. « Montez vite, elle va partir, et je n'en réponds plus. » Sans protester, il voulut s'asseoir près de moi. Je l'en dissuadai. « Derrière, cela paraîtra plus digne. » Nous voilà partis. Je connaissais les sentiers et les virages de ce pays. J'avançais un peu, puis je gagnai la grande route. L'homme ne disait rien. Il tenait sa précieuse valise près de lui. Parfois, il tournait la tête. Rien à signaler. J'avais l'air d'un soldat en service qui transporte une autorité. « Plus vite !» C'était un ordre. Mon autorité s'agitait. Elle ajouta ses confidences pressées. « Je suis très ennuyé. Mon gendre me poursuit. Vous le connaissez ? Non. Les servantes ne vous ont pas prévenu ? Non. Elles devaient m'avertir. Elles n'ont pas pu. C'est pourquoi, peut-être, elles vous ont délégué. Vous connaissez l'allemand ? Pas du tout. Mon gendre est furieux. Il croit que je lui ai enlevé sa femme parce qu'il la brutalisait. Ce n'est pas vrai. Cet enfant, ma fille, je ne sais pas où elle s'est réfugiée. » Tout d'un coup, la vérité m'apparut. L'officier en civil m'avait rendu à la liberté pour savoir ce que j'entreprendrais. C'était moi qu'il fallait pister, et du même coup, il espérait retrouver l'automobiliste qui s'était évadé du restaurant. Mais le chauffeur avisé ne s'était pas précipité sur la route. Il s'en était au contraire écarté, pour se garer sur un chemin, laissant ceux qui le cherchaient se lancer sur la grande route de Grenoble. Là, il se perdrait dans la ville, puis, quand tout serait calme, il rentrerait paisiblement chez lui. Nous avions descendu les hauteurs de Corinque, laissant ses maisons neuves et ses villas. On ne voyait plus que rarement, à cause des lacets de la route, la vallée du Grésivaudan. Nous approchions des faubourgs de la Tronche. Des odeurs suspectes brandissaient à notre rencontre. « Il y a une voiture qui voudrait nous rattraper. C'est celle de mon gendre. » Ainsi s'exprimait mon autorité. Sa voix était dure. On le sentait décidé. Il ajouta. « Que devons-nous faire ? Le laisser passer devant ou le distancer ? « Choisissez. J'ai un revolver. Le semer, c'est difficile, mais c'est préférable. » Je conduisais avec prudence et sang-froid. Bientôt les quais d'une Isère noire. Je glissais sur le pont suspendu, gagnais la gare ostensiblement. Là, je me dirigeais sur l'esplanade de Clay, pris un chemin de traverse à droite et retournai sur l'esplanade. Enfin, j'étais revenu à Grenoble et allais me placer devant l'hôtel des postes. « Vous voyez quelque chose ? » demandai-je à l'automobiliste qui se démenait sur sa banquette. Il attendit un moment, puis « Bien manœuvré, on l'a semé. » C'était exact. Pas de voiture à l'horizon. Des soldats par groupe, des officiers détachés. Attention, ne pas oublier de les saluer. Un cycliste nonchalant nous dévisagea d'un œil dénué d'intérêt. « Allons plus loin. » Je m'engageai dans la rue du lycée, contournait la place aux Herbes, la place Notre-Dame, filait sur l'île verte pour amorcer un beau virage de retour. « On s'arrête ici ?»« Non, chez vous, » me dit l'homme. « Passez devant votre maison. Je descendrai, puis vous irez garer l'auto. »« Parfait. Numéro 5, place de Gordes, 3e étage. La première porte en face de l'escalier. Mon nom est sur la porte, la clé sous le paillasson. Il n'y a qu'à entrer. Si l'on vous interroge, par hasard, vous direz que vous venez voir M. Lavernet. » « Quand vous aurez la voiture garée, vous reviendrez ?» me demanda-t-il. « Naturellement, et ce sera à mon tour de vous indiquer un restaurant. » J'allais m'arrêter près du vieux théâtre. L'homme qui était fébrile descendit avec une vivacité qui m'étonna. Il n'oubliait pas sa petite valise. Je lui indiquai une entrée dans l'hôtel de ville. « Suivez ce couloir, vous déboucherez sur la place de Gordes. »« Je connais, » dit-il simplement. Il partit hâtivement. Seul au volant, je réfléchissais. Quelle histoire! Je lus sur la plaque de la voiture un nom que je n'avais pu déchiffrer. Georges Antonu, représentant, rue d'Assas, Paris. Une auto-volée, sûrement. Où la placer? Le meilleur endroit, c'était encore la place de Gordes. J'allais repartir lorsqu'un sous-officier du génie, mettant la main sur mon poignet, m'arrêta. « Caporal Lavernet, Conduisez-moi, service commandé. »
Je regardais ce nouveau venu qui me parlait sur ce ton sans réplique.
Décidément, son apparition aurait manqué au programme.
C'était un garçon blond et triste. Il avait les yeux bleus et la lèvre supérieure rasée. Je répondis, sagement résigné.
« Suivez-moi, à 20 mètres de distance. »
Je pris par la rue Lafayette, la rue de la Boulangère, et je vins me ranger à côté de la fontaine, sur la place, non loin des grilles du jardin. Tout était calme et tiède. Des femmes bavardaient devant leurs portes. Je montai chez moi rapidement. La porte n'était pas fermée. Je la poussai et restai là, immobile. Ce que je redoutais vaguement s'était accompli. D'abord, je vis l'officier en civil qui fouillait dans la valise de l'automobiliste. Derrière lui, dans l'unique fauteuil, un homme étendu. Ses lunettes et sa casquette avaient glissé. On voyait ses épais cheveux drus et son visage blanc. Il paraissait presque jeune maintenant, mais il ne bougeait plus.
« Vous avez bien manœuvré, caporal Labernet, » me dit mon tourmenteur. « La prise est bonne. » Quand je suis entré ici, l'homme classait ses papiers. Il allait les détruire. À ma vue, il avalait une pastille. Foudroyant.
« C'est fini à présent. »
Oui, tout s'était accompli hors de ma présence. Je n'avais été qu'un instrument. Je regardais cet homme qui semblait glisser. J'avais déjà rencontré des morts, mais pas dans ces circonstances-là. J'éprouvais quelque amertume pour le rôle que j'avais joué. À ce moment, le sous-officier du génie entra.
« Ah, c'est vous, » dit le chef.
« Emportez la valise. Faites vérifier ses adresses. Ramassez tout et télégraphiez pour les noms sur ses papiers. »
Vous reviendrez avec des effets nouveaux pour cet homme-là qui s'est endormi.
Il faudra prendre tous ses vêtements et les faire examiner. Souvenez-vous qu'on a repéré le secret d'une encre sympathique dans des lacets de souliers. S'il a gardé sa casquette jusqu'au dernier moment, c'est qu'il avait une raison de la préférer à son chapeau. Le sous-officier salua et repartit. Il n'avait pas prononcé une parole. Quand nous fûmes seuls, l'officier en civil poursuivit. C'était un adversaire rude et courageux. Je lui avais tendu quelques pièges. Il se méfiait. Votre intervention a provoqué chez lui le geste de panique que j'attendais toujours. Il a fui avec ce qu'il possédait de plus cher. Preuve qu'il n'était pas tous les jours à toute heure maître de ses nerfs. De votre côté, si vous n'êtes pas retenu par quelques secrets, dites-moi comment vous êtes arrivé jusqu'à lui.
Je n'ai rien découvert du tout. J'avais hâte de rentrer à Grenoble. Je l'ai aperçu non loin de la route.
À la réflexion, maintenant, je pense qu'il devait se cacher. Il m'a confié que vous étiez son gendre, que vous brutalisiez sa fille et que vous le poursuiviez de votre vengeance.
« Parfaitement imaginé, » déclara-t-il. Mais je sentais qu'il n'accordait aucun crédit à mon récit.
« Remarquez, » reprit-il, « rien ne vous oblige à me confier l'exacte vérité. »
« Et ses détours dans la ville, c'était pour donner le change ?»«
Oui, cela lui a permis, pendant que vous conduisiez, d'envoyer à ses amis quelques signes de détresse. »
Vous aviez ajouté foi à son histoire?
Moi, je n'ai vu qu'une chose, c'est que j'avais une automobile pour revenir à Grenoble.
L'officier en civil avait encore une question à me poser.
C'était vraiment une gaminerie, votre avertissement, de Bisferlorn?
Oui, je comprends.
Il réfléchissait. Le ton de sa voix s'était modifié. Elle en devenait presque sympathique.
Je vois ce que c'est. Vous êtes un gaffeur qui a de la veine.
Ce bizarre compliment, que de fois j'ai pu constater ce qu'il avait de prophétique.
Naturellement, vous n'appartenez pas à un service, et vous ne songez pas à y entrer.
Cela demande réflexion, dis-je prudemment, sans avoir trop l'air de comprendre, mais je pensais.
Surtout, si j'en faisais partie, je ne le dirais pas.
Il regardait ma jambe.
Je ne veux pas vous tromper, c'est dangereux aussi.
Pourtant, l'on y est rarement blessé.
Il eut un rire amer.
Mais il arrive qu'on disparaisse tout à fait, comme celui-ci. Il n'a pas hésité à prendre congé quand il a compris qu'il était perdu. Il était comte en Allemagne et capitaine de cavalerie. Cependant, pour la circonstance, il sera votre oncle, l'oncle Urbain.
Vous allez encore vous rendre utile, caporal Labernet. Vous placerez dans les vêtements de cet homme, c'est-à-dire dans ceux qu'apportera le sous-officier, les nouvelles pièces d'identité qu'il vous remettra. Puis vous irez au commissariat déclarer qu'il s'est donné la mort. Après, vous serez libre.
Demandez conseil au sous-officier, pour les frais également.
Il s'arrêta parce qu'il vit que je voulais parler.
L'homme qui est là avait un revolver.
Moi aussi, je le tenais à la main quand je suis entré. Il n'a pas pu atteindre son arme. Ah, si vous aviez besoin de moi, absolument. Vous savez où me trouver. Au revoir, caporal, et bonne chance.
Au revoir, monsieur.
Ses yeux vifs et durs se posèrent sur moi.
À présent, vous pouvez m'appeler mon commandant.
Et sur son visage fermé, j'aperçus l'ombre d'un sourire joyeux. Ainsi s'achève L'espion sans le savoir, par Émile Zavy.